Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bientôt 19h sur CNews. Merci d'être avec nous pour Face à Mathieu Bock-Côté. Mathieu Bock-Côté, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Arthur de Vatrigan.
Bonsoir.
Ravi de vous retrouver à la une de l'incorrect ce mois-ci. Pierre Manan, Alain Finkielkraut, euthanasie, la grande confrontation. Échange passionnant entre les deux hommes. Le point sur l'information, on commence l'émission dans un instant. C'est avec Adrien Spiteri. Bonsoir Adrien.
Bonsoir Elliot et bonsoir à tous. Greta Thunberg était en France aujourd'hui. La militante écologiste suédoise s'est rendue dans le Tarn. Le but, apporter son soutien aux opposants au projet d'autoroute A69. Plusieurs centaines de personnes sont présentes ce week-end sur place. Une cinquantaine de policiers ont fait face à des activistes occupant une ZAD pour empêcher la poursuite du chantier. Du collectif, de l'action et des résultats tangibles pour nos compatriotes, ce sont les mots de Gabriel Attal. Il a réuni ce matin l'ensemble de son gouvernement. Le Premier ministre a fixé le calendrier et les priorités des prochains mois. Et puis l'Arabie Saoudite et l'Allemagne s'inquiètent d'une possible offensive israélienne à Rafah. Les deux pays craignent une catastrophe humanitaire alors que Tsahal se prépare. Rafah est l'un des derniers refuges des déplacés de la guerre dans la bande de Gaza.
Merci cher Adrien pour le point sur l'information. À la une de Face à Mathieu Bock-Côté, Nicole Belloubet succède à l'éphémère Amélie Oudéa-Castéra au ministère de l'Éducation nationale. On change de ministre, mais également d'idée. Et c'est reparti pour un nouveau virage à gauche. En Macronie, il faudrait des heures pour tenter de comprendre comment, rue de Grenelle, nous pouvons passer de Jean-Michel Blanquer à Pap Ndiaye, puis Gabriel Attal, et désormais Nicole Belloubet. À part les syndicats ou Mediapart, qui va applaudir cette décision ? Belloubet, Ndiaye, même combat, on en parle dans un instant. À la une également, vous souhaitez revenir ce samedi sur la mort de Robert Badinter. Un hommage national lui sera rendu mercredi, place Vendôme. Vous souhaitez revenir sur l'homme, mais également l'homme politique, son héritage et le tournant 1981. Enfin, cher Mathieu, vous recevez ce samedi la journaliste et écrivaine Noémie Alioua pour son dernier livre, La terreur jusque sous les draps, ou Comment sauver l'amour des nouvelles morales. Le wokisme et des constructeurs sont-ils en train de tuer l'amour à quelques jours de la Saint-Valentin? Votre invité arrive à point nommé. Voilà le programme de Face à Mathieu Bock-Côté. Cher Mathieu Bock-Côté, vous voulez commencer d'abord le générique et ensuite l'émission commencera bien sûr. Mathieu Bock-Côté, parlons de Nicole Belloubet. La nomination de Nicole Belloubet à l'Éducation nationale surprend dans la mesure où elle semble s'inscrire en contradiction avec le passage de Gabriel Attal à ce ministère. Certains la voient même comme une nouvelle Pap Ndiaye. Alors, que comprendre de ces craintes? Sont-elles dans les circonstances fondées, Mathieu Bock-Côté?
Bah alors, disons les choses clairement. Je crois effectivement que c'est une nouvelle Pap Ndiaye. Et de ce point de vue, bah, vous déciderez si c'est une bonne nouvelle ou non. Mais il y a un élément, et j'y reviendrai, de rupture, c'est assez fascinant, qui nous rappelle à quel point, en Macronie, sauf autour de la conviction fondamentale, structurante, celle qui domine toutes les autres, l'Europe. Pour le reste, on peut embrasser toutes les positions disponibles, que ce soit en matière de laïcité, de finances publiques, d'immigration et ou sur la question de l'école. Il n'y a pas de cap idéologique, il n'y a que des positions circonstancielles. Alors j'y reviens, Nicole Belloubet, c'est une femme très à gauche, mais de la gauche tendance PS. Donc on pourrait dire qu'elle incarne la gauche 68arde de manière quasi caricaturale. On connaît ses propos sur l'école il y a quelques années, où elle critiquait tous les symboles de l'école traditionnelle, de l'école qu'on pourrait dire classique, sur laquelle certains voudraient revenir. Donc le cours magistral. Le cours magistral, donc c'est avec un professeur, l'enseignant, les élèves. Donc une autorité est fondée sur un savoir à transmettre, parce qu'il s'agit d'un maître, il s'agit d'élèves à élever justement. Elle en faisait le procès. Elle croyait davantage une forme de pédagogie participative, la pédagogie par projet. De la même manière, elle était très réservée sur la question de l'autorité à l'école. Elle trouvait qu'on en faisait un peu trop, lorsqu'il est question de l'uniforme aussi. Donc, et là, ce qui est intéressant à travers cela, c'est que tout ce qui a marqué positivement, j'y reviendrai dans un instant, le passage de Gabriel Attal à l'Éducation nationale, ce qui a fait en sorte, soit dit en passant, que Gabriel Attal a été propulsé au rang de premier ministre, eh bien, ces orientations sont les orientations contraires de celles qu'on prête, à tout le moins, que l'on sait être celles de Nicole Belloubet. Il y a une autre position qu'il vaut la peine de rappeler, ce qu'elle a dit au moment de l'affaire Mila. Hein, vous vous rappelez cette jeune femme qui avait insulté l'islam? Elle dit, Belloubet, l'insulte à la religion est une atteinte grave à la liberté de conscience. Autrement dit, Nicole Belloubet croit au délit de blasphème. Ensuite, le lendemain, elle s'était corrigée en disant « j'ai fait une erreur dans la formulation de mes propos ». Mais je m'excuse, mais moi je m'intéresse à la première formulation des propos et non pas à la correction médiatique qui a suivi. Et je pense, vous savez, tout comme quand en parlant d'autres temps de Patrick Buisson, on dirait répéter toujours, vous savez, l'ancien directeur de l'hebdomadaire Minute d'extrême droite, Patrick Buisson. Quand on parle de tel ou tel homme politique, on rappelle toujours en toutes circonstances leurs déclarations. Moi je pense que désormais, chaque fois qu'on doit parler de Mme Belloubet, il faut rappeler Mme Nicole Belloubet qui considère que l'insulte à la religion est une atteinte grave à la liberté de conscience et qui considère donc qu'il y a un délit de blasphème en France. Quel que soit le sujet, on ne peut pas, sur une question aussi fondamentale, et plus encore en France, pays de la laïcité, et plus encore en France, pays qui, en matière de liberté religieuse, croit justement au droit de critiquer, même d'offenser toutes les religions, sans qu'on connaisse une forme de punition pour cela, je pense qu'il faut rappeler en toutes circonstances que Mme Belloubet incarne la gauche, anti-Charlie, la gauche anti-liberté d'expression, la gauche pour le délit de blasphème, la gauche contre la liberté d'expression plus largement. Je pense qu'il faut le rappeler en toutes circonstances, ça va nous aider à comprendre ses positions. Ensuite, je l'ai dit, il y a quelque chose... En fait, c'est une position, je pourrais dire, libertaire-autoritaire. C'est intéressant, hein, parce que libertaire, parce qu'à l'école, je l'ai dit, pédagogie par projet, déconstruction des savoirs, déconstruction de la transmission de la connaissance. Mais au même moment, autoritaire, effectivement, parce que s'il y a un délit de blasphème, il faut punir les gens avec les moyens de l'État qui se permettent d'offenser la croyance des uns et des autres. Et soit dit en passant, l'insulte à la religion est une atteinte grave à la liberté de conscience. Si je dis du mal d'Israéliens, ça existe, vous savez, ceux qui ont une forme de religion, les extraterrestres, c'est permis. Si, de quelle religion puis-je dire du mal ou non? Si je dis du mal de l'Église catholique, ça doit être permis. Si je dis du mal des luthériens, ça doit être permis. Si je dis du mal des calvinistes, pourquoi pas, ça doit être permis. Mais de qui n'ai-je pas le droit de dire du mal? De quelle religion j'ai pas le droit de critiquer? Ça serait intéressant de le savoir. Ça serait très intéressant de le savoir. Et si Mme Belloubet considérait à l'époque que l'insulte à la religion est une atteinte grave à la liberté de conscience, je veux savoir qui définit ce qu'est une insulte à la religion. Hein, il faut le rappeler, c'est important parce que c'est elle désormais. Je me demande, qu'est-ce qu'elle pense? Est-ce que Samuel Paty, lorsqu'il montrait les caricatures, est-ce que c'était une insulte à la religion? J'aimerais savoir quelle est la position de Mme Belloubet sur Samuel Paty. Que pensait-elle du fait qu'il présentait des caricatures de Mahomet dans ses cours? Bon, vous avez compris l'idée. Cela dit, ce qui est important, c'est l'élément de rupture, je l'ai dit, avec Gabriel Attal. Gabriel Attal, c'est celui qui a dit « on ramène l'autorité à l'école, on chasse la baïa de l'école et on amène l'uniforme à l'école ». C'est important quand même. Et là, on a une femme donc, qui croit désormais tout le contraire pour l'essentiel. C'est le retour de Papandreou, à bien des égards. C'est-à-dire le retour d'une philosophie semblable à celle de Papandreou. Et là, on se demande qu'est-ce qui se passe exactement. Est-ce qu'on peut véritablement, en l'espace de quelques mois, prendre un cap, et ensuite un autre, et ensuite un autre, et finalement se retrouver que... Est-ce que l'éducation, finalement, est à ce point peu importante qu'on peut sans cesse changer la philosophie fondamentale du ministre et du ministère sans que cela n'ait d'impact sur l'école? Alors, il y a deux possibilités. Soit Mme Belloubet poursuit la politique de Gabriel Attal, c'est possible, et je laisse de côté la parenthèse ou Oudéa Castéra, vous l'aurez compris. Donc, si elle poursuit la politique de Gabriel Attal, c'est qu'on comprend qu'elle-même, ses convictions sont secondaires parce que l'essentiel pour elle, c'est d'être ministre. C'est une ambition légitime. Soit elle rompt avec la politique de Gabriel Attal et dès lors, elle nous rappelle qu'il n'y a pas de cap politique en ce gouvernement, ce qui est quand même assez étonnant. Au final, on va dire une chose toute simplement, l'éducation est la grande sacrifiée du remaniement.
On avait parlé, Mathieu Bock-Côté, de la possible nomination de François Bayrou à l'Éducation nationale. N'était-il pas davantage taillé pour ce rôle?
Je crois. Alors, premièrement, je tiens à dire que je suis très heureux que François Bayrou ait été relaxé, au terme du procès, que finalement rien ne soit retenu contre lui. Je pense qu'on était devant un procès politique.
Comme... Parquet a fait appel. Hein.
Oui, je sais, mais pour l'étape présente, je crois qu'on était dans une forme de procès politique qui consiste en fait aujourd'hui à flinguer tous ceux qui ne jouaient pas selon les règles telles qu'interprétées par une certaine nomenclature européenne, et ainsi c'est une manière de casser les uns les autres. Donc en tant que tel, j'espère que François Bayrou, que ses mésaventures en ces matières sont terminées. Je tenais à le dire. Pour le reste, on dit souvent qu'il n'a pas fait grand-chose à l'éducation nationale lors de son premier passage, François Bayrou. C'est vrai, mais de l'autre côté, je préfère un homme qui fait peu de choses qu'un homme qui en fait tant comme voulait le faire, justement, Pap Ndiaye en d'autres temps, et quelqu'un qui voudrait en faire tant comme Mme Belloubet si elle est fidèle à ses convictions. François Bayrou avait, j'ai des désaccords profonds avec lui, mais c'est un homme qui est fidèle à une certaine conception classique de l'éducation. C'est un homme cultivé. C'est une vertu qui est assez rare aujourd'hui dans la classe politique. Un politique, aujourd'hui, vous êtes chanceux s'il lit autre chose que des tweets. Il lit assez rarement des essais et encore plus rarement des classiques. François Bayrou était un homme qui avait le sens d'une véritable culture de la transmission. Mais pourquoi n'est-il pas présent? On comprend, c'est que je pense que les grands fauves politiques ne sont plus les bienvenus aujourd'hui. Il y a la personnalité forte du président, évidemment. Mais pour le reste, on préfère les ministres interchangeables qu'on peut prendre, congédier, des ministres dont on découvre l'existence au moment où on les vire, en fait. Et de ce point de vue, François Bayrou est dans une autre catégorie. Ensuite, on le sait, il a décidé de lancer sa campagne pour 2027. Ça fait la deuxième ou la troisième fois qu'il annonce, soit dit en passant. Je me rappelle, il y a quelques mois, au grand rendez-vous, le dimanche matin devant nous, il avait annoncé aussi qu'il serait présent en 2027. Là, finalement, on a décidé d'entendre. Donc, il est candidat en 2027. Je dis que néanmoins, peut-être, comme dernier acte d'une carrière politique, dans son cas, peut-être, il aurait mieux fait d'être un bon ministre de l'Éducation nationale qu'un homme qui perdra en 2027.
Revenons à l'Éducation nationale, Mathieu Bocoté. Vous croyez qu'elle devrait être au cœur d'une grande réforme
aujourd'hui? D'une contre-réforme, Elliot. D'une contre-réforme. Vous me permettrez le clin d'œil historique. Qu'est-ce qu'on a vu dans la parenthèse Oudéa Castéra? On a vu l'incroyable hypocrisie d'une partie des élites qui, pour leurs enfants, veulent un modèle d'école et pour les autres, en veulent un autre. Ce que je comprends, moi, c'est que l'essentiel de la classe politique française veut des écoles privées, souvent des écoles catholiques, à tout le moins des écoles d'excellence, des écoles qui ont le sens de l'autorité, de la hiérarchie, qui transmettent une conception classique du savoir, de la culture, de la tradition. Ça, c'est ce qu'ils veulent pour leurs enfants. Hein. Des écoles protégées, où il n'y a pas de danger, il n'y a pas d'insécurité, où les maîtres peuvent enseigner librement. Et pour les autres, ils proposent l'école de la déconstruction, l'école de, on pourrait dire, l'interruption volontaire de connaissances, hein, l'IVC, ou de tradition. Et c'est un peu ce qu'on a vu depuis 40 ans, et je pense que c'est une chose qu'on doit mentionner. Parce que s'est-il passé depuis 40 ans, mais pas seulement en France, partout en Occident, je prends la peine de le dire, on s'est convaincu d'une chose, la culture était fondamentalement toxique. La culture, c'était un amas de préjugés. La culture, c'était un résidu, en fait, de vieux stocks de connaissances pourries, intoxiqués par les temps anciens, ravagés par le racisme, le sexisme, la transphobie, et ainsi de suite. Et dès lors, il fallait rompre avec la culture pour permettre une forme de renaissance des jeunes générations sous le signe du grand recommencement à zéro. Hein, c'était les thèses je les présente de manière synthétique, mais de Philippe Mérieux, d'Alain Touraine, des gens qui disaient, autrement dit, l'école doit délivrer l'enfant de la tradition pour lui permettre de construire lui-même son propre savoir, construire lui-même sa propre vision du monde. Mais c'était une catastrophe. La fonction première de l'école, c'est de transmettre un savoir, une culture, les humanités classiques, pour permettre ensuite à l'élève d'apprendre. C'est la formule de Finkielkraut, on ne pense pas par soi-même de soi-même. Et ça, l'école a renoncé à transmettre ce savoir. Donc, il faudrait revenir en ces matières, l'avenir est dans le passé. C'est-à-dire, on doit se tourner vers l'école telle qu'elle fut et telle qu'elle devrait être demain en fermant la parenthèse du pédagogisme, de la déconstruction, de la culture. Est-ce que c'est possible, tout ça, cela dit, dans le cadre de l'éducation nationale telle qu'on la connaît aujourd'hui? J'en suis pas certain. Je suis assez honnête. Moi, je crois davantage en la matière à la maximisation de la liberté scolaire. Maximiser la liberté pour les établissements, privés comme publics. Maximiser la possibilité pour les écoles de se dérober au règne des pédagocrates, des technocrates, des idéologues du pédagogisme. Maximiser la liberté scolaire pour permettre à chaque école, en fait, je pense qu'en dernière instance, ce sera de renouer avec cette tradition empêchée et déconstruite trop souvent par les autorités officielle scolaire. De ce point de vue, je pense que la question de la liberté scolaire est aujourd'hui indissociable, dis-je, de la question des humanités et des humanités classiques à restaurer. Je sais que ce lien, ils sont peu nombreux à le faire, et pourtant il est essentiel.
Retenons cette formule, l'interruption volontaire de connaissances. Formidable. Je pense qu'on va la réutiliser dans les prochaines semaines. Arthur de Vatrigan, on n'y comprend plus rien. Avec Madame Belloubet, que se passe-t-il?
Ce qui se passe, c'est qu'Emmanuel Macron, finalement, c'est la politique du Dahu. Il fait changer de direction, mais en fait, il va toujours dans le même sens, si vous regardez. Donc, il agite Blanquer, il agite Attal pour faire remonter le baromètre, et au final, il avance toujours avec Ndiaye et Belloubet. Alors, c'est le président qui navigue à coups de barre Et à la fin, c'est toujours la France qui coule, évidemment. Alors, on pourrait imaginer, comme Mathieu l'a suggéré, la version positive. Madame Belloubet renie ses convictions pour sauver l'école. Mais j'ai envie de lui répondre, pour plagier De Gaulle, pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, Madame Belloubet commence une carrière de femme de droite? Alors, reste alors la possibilité du miracle. C'est possible, sauf qu'il faudrait aller à Lourdes, déloger François Bayrou, qui est aux premières loges devant la Sainte Vierge pour prier, pour qu'enfin les Français lui confient en 2027 le rôle qui lui est prédestiné. Mais ça me paraît mal barré également.
Parlons de Robert Badinter à présent. La mort de Robert Badinter a suscité chez plusieurs une grande émotion. Mathieu Bock-Côté, on célèbre avec lui un grand sage de la République. Que vous inspirent ces commémorations et ces hommages qui lui seront rendus d'ailleurs le prochain mercredi?
D'abord, comme tout le monde, on tient à rendre hommage, je dirais, un homme d'une grande qualité, un homme fidèle à ses convictions. C'est la première chose, je crois, essentielle dans la vie publique. Si tous les hommes étaient fidèles à leurs convictions comme ils l'étaient, probablement que la vie publique serait plus riche. Je ne suis pas certain que tous le sont, quelles que soient les convictions, soit dit en passant. Alors là, on est témoin en ce moment d'une forme de processus de canonisation républicaine en direct, en quelque sorte. Parce qu'il nous manque tellement de grands hommes au temps présent qu'on se tourne vers ceux qui nous quittent, qui sont dans la décennie, qui sont dans leur 90e année, 95e année, et chaque fois on s'accroche à eux en disant ils sont le témoin d'un monde qui n'est plus. On sait le grand traumatisme, donc c'est un, j'ajoute soit dit en passant évidemment que c'est un grand orateur, un grand plaideur, il suffisait de le voir plaider, c'était impressionnant, sans le moindre doute. C'est un homme marqué par le traumatisme inaugural de sa vie, mais qui est le traumatisme de tout le 20e siècle, évidemment c'est le nazisme, et toute sa vie il a lutté avec raison contre l'antisémitisme, quitte quelquefois, hélas, à se tromper sur l'avenir. Je me souviens d'une intervention il y a quelques années où Robert Badinter disait, à propos de la critique de l'islamisme aujourd'hui en France, il nous disait finalement, puis quand on parlait d'identité nationale, il disait les musulmans d'aujourd'hui, c'est l'équivalent des juifs d'hier. Je ne suis pas certain que cette comparaison ait été aussi éclairée qu'il l'ait cru lorsqu'il l'a dit. Je crois d'ailleurs qu'il avait pu évoluer sur cette question, mais il l'a entretenu malgré lui. Mais je comprends la force du traumatisme qui est le nôtre tous, que nous partageons tous. Il confondait en fait les temps présents avec les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale. Par ailleurs, et c'est une chose assez importante, quand la République décide de canoniser un homme, on voit que ce que la République apprécie en elle-même. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est la sacralisation de l'État de droit. De la même manière, à certains égards, qu'on a vu il y a quelques jours, quelques semaines, la canonisation de Jacques Delors. Jacques Delors, qu'est-ce qu'on sacralisait avec lui? Alors, c'était l'Europe. L'Europe qui se construit dans un grand projet fédéral. Je note, soit dit en passant, que même les critiques, parce qu'il y en a de l'héritage de Robert Badinter, ont exprimé des critiques très, avec une grande réserve, une grande politesse, une grande décence. Et c'est, je pense, une vertu des hommes qui ont pu le combattre en d'autres temps, alors que lorsque d'autres hommes meurent, je pense à Patrick Buisson tout récemment, ou Jean Raspail il y a quelques années, on s'empresse de se jeter sur l'homme qui vient de mourir pour salir sa mémoire. Je pense qu'aujourd'hui, il s'agit de ceux qui voudraient salir la mémoire de tel homme se livreraient un bien sale travail. Je pense qu'on doit être capable d'honorer l'homme sans pour autant, par ailleurs, sacraliser tout ce qu'il a fait, sans idéologie, sans prendre prétexte de cet hommage légitime pour dire qu'il avait raison sur absolument tout, parce que c'est autre chose.
Et vous semblez dire justement que son héritage fait toutefois moins l'unanimité qu'on ne le dit. Est-ce vraiment le cas, Mathieu Bock-Côté?
Alors, je ne veux pas mener une polémique ce soir, évidemment, mais ce que je note, c'est qu'il y a une forme de basculement historique qui a eu lieu à partir de 1981. On dit souvent, Robert Badinter, c'est l'homme qui a aboli la peine de mort. C'est plus ou moins vrai. La peine de mort n'a pas été abolie en France. C'est tout simplement que ce n'est plus l'État qui l'exerce. Ce n'est pas un détail. C'est-à-dire que l'État a renoncé à la très grande violence qui est la peine de mort, évidemment, et a voulu se civiliser en ayant une politique moins répressive, moins violente, qu'il n'acceptait plus, en fait, c'est le droit brutal, c'est la violence consacrée, de mettre fin à la vie d'un homme qui, par l'horreur de ses crimes, était jugé qu'on devait en finir avec lui. Mais la peine de mort est toujours exercée aujourd'hui en France. Des gangsters, les voyous, les différents agresseurs, les terroristes islamistes exercent la peine de mort sans le moindre doute. Et j'ai l'impression qu'on est dans ce paradoxe historique où on est devant un État qui se veut de moins en moins violent dans une société de plus en plus violente. Et c'est à ce moment que c'est la question du rapport à l'État de droit qui se pose. L'État de droit, moi je ne suis pas de ceux qui le maudissent, l'État de droit est en soi nécessaire, c'est la défense des libertés publiques. Et les libertés publiques, c'est fondamental. Ce qu'on peut se demander, c'est que si l'État de droit tel qu'on le connaît aujourd'hui, et peut-être pas tel qu'il l'avait souhaité lui-même, ne s'est pas à ce point développé, je dirais dénaturé, qu'il est aujourd'hui, en fait, consécration d'un droit affranchi du politique et impuissance de l'État en toutes circonstances. Est-ce que notre société, en voulant s'humaniser à tout prix, et on comprend ce désir d'humanisation de la société, est-ce qu'elle ne s'est pas rendue impuissante devant ceux qui la combattent? Est-ce que notre société, voulant assurer la protection du droit de tous, même de ceux qui défient l'ordre social, n'en est pas venue finalement à sacrifier ceux qu'elle devait défendre, pour défendre à tout prix ceux qui voulaient l'abattre d'une manière ou de l'autre. Et c'est pourquoi, 40 ans plus tard, en fait, la question de l'état de droit se pose aujourd'hui. On se demande très bien l'état de droit, mais est-ce qu'il nous est possible de reviser à la fois la manière dont il se déploie, ses modalités d'application? Est-ce qu'il n'y a pas des angles morts dans l'histoire récente de l'état de droit? Je pense que rendre hommage à Robert Badinter, ce que je fais on a l'impression de participer à un hommage absolument légitime et nécessaire. J'ai l'impression au même moment que c'est rendre hommage aussi à la qualité d'un homme qui savait le débat public nécessaire. Et peut-être est-il nécessaire aujourd'hui de remettre en question certains faux consensus pour voir si dans notre société, il n'y a pas une mise à jour nécessaire des institutions, des lois et du droit pour tenir compte des réalités nouvelles qui ne sont pas nécessairement celles qui étaient les nôtres il y a 40 ans.
Et de tout dire sur une personne, être capable de tout dire sur une personne disparue, ça s'appelle la correction fraternelle.
Oui, comme on dit.
Voilà. Arthur de Vatrigan, quel regard portez-vous sur Robert Badinter et ses hommages?
Eh bien, je m'interroge, moi, sur cette étrangeté d'assister la même année à la mort de Robert Badinter, à la probable constitutionnalisation de l'IVG et à la probable légalisation de l'aide à mourir active, comme on dit. Je me dis, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre société, qu'on navigue à l'aveugle, il n'y a plus de principe directeur. Je m'explique, Robert Badinter affirmait « Nul ne peut retirer la vie à autrui dans une démocratie », ajoutant le corollaire, ce respect à la vie, la liberté de se suicider, chacun est maître de son corps et donc libre de disposer de son corps et de sa vie. Il y a quand même des contradictions étranges. C'est que première remarque, je m'étonne toujours que cette expression « chacun est maître de son corps » pour justifier l'avortement, alors que le fœtus ou le bébé, appelez-le comme vous voulez, soit immédiatement évacué de la discussion. On affirme un principe moral, éthique, en oubliant volontairement le X dans l'équation, à savoir qu'on ne dispose pas de son corps, mais d'un corps qu'on héberge, en l'occurrence. Deuxième remarque, dans ses hommages unanimes à Robert Badinter, les mêmes qui louent son combat sont les mêmes qui militent pour l'euthanasie. Alors il est vrai que la cohérence n'est pas la première vertu de nos intellectuels et de nos politiques aujourd'hui, mais tout de même. Donc ce que rappelait aussi Badinter dans ses prises de parole, toujours intéressantes, c'est sur quoi notre civilisation a-t-elle été bâtie? Elle a été bâtie sur la dignité humaine. Et la dignité humaine, elle a été fondée sur quoi? Sur une loi qui n'a ni été inventée ni fabriquée par l'homme. C'est une loi qui est sortie tout droit du décalogue, qui interdit tout simplement aux hommes de faire ce qu'ils veulent aux autres et à eux-mêmes. C'est-à-dire que si nous sommes libres, c'est justement parce qu'il y a cette loi au-dessus de nous. Et c'est justement parce que l'homme peut désirer la mort que l'État a le devoir de le protéger de cette tentation au nom justement de cette loi. Et or, comme le rappelle Pierre Manant dans nos pages, il y a quand même quelque chose d'étrange, c'est que l'injonction progressiste nous commande, au nom de l'humanité, de sortir justement de ce qui constitue notre humanité. Un exemple, on a un Conseil national d'éthique en France qui est censé être le garant de nos principes directeurs. En l'espace de 10 ans, sur la question de l'euthanasie, il a changé d'avis. On peut évoluer, me diriez-vous, c'est pas un souci. Sauf que ce qui est intéressant, c'est l'argument qu'ils emploient. Ils sont pour, au nom du devoir de solidarité envers les personnes les plus fragiles et le respect de l'autonomie de la personne. Si vous avez compris quelque chose, vous m'expliquerez. Et on pourrait en rire, sauf que dans leur rapport sur la fin de vie qu'ils ont écrit, on peut lire à l'avis 139, le droit à la vie ne vaut pas devoir de vivre. Traduction, vous avez le droit de vivre, mais il ne faudrait pas en abuser non plus. Donc je trouve que célébrer Badinter très bien, mais il faudra peut-être se mettre en cohérence avec les sujets d'aujourd'hui. Enfin, dernière remarque sur la peine de mort elle-même. Il faut rappeler que c'était très symbolique parce qu'il y a très peu de cas de peine de mort heureusement exécutés. Or, c'est bien la première fois qu'une loi sociétale est symbolique, marquée sous le sceau du progrès, 40 ans après ne fait pas l'unanimité. Je vous rappelle les sondages et les études, on est aussi entre 49% et 53% des Français qui seraient pour le retour de la peine de mort. Pourquoi ? Parce que là, on peut aller chercher chez saint Thomas d'Aquin qui explique pourquoi il y a la peine de mort. Il dit, le peine de mort, c'est au nom de la conservation du bien commun. Pour résumer, grossièrement, on fait passer le bien public avant le bien individuel. Très bien. Et le problème, c'est que je pense que les Français pensent que le bien commun est menacé, donc souhaiteraient ce retour-là. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée, évidemment. Mais on pourrait se poser la question de la peine de substitution qui nous a été promise n'existe pas. Et donc, on a cet appel retour de la peine de mort. Parce que dans notre société, la direction, c'est le bien individuel qui a remplacé le bien commun, donc on est à front renversé.
Et vous avez cité Pierre Manent et l'entretien, c'est évidemment dans l'incorrect ce mois-ci. On se retrouve dans un instant pour la suite de Face à Mathieu Bock-Côté. Vous recevez Noémie Alioua pour son livre « La terreur jusque sous les draps ». A tout de suite sur CNews. 19h30 sur CNews, la suite de Face à Mathieu Bock-Côté. D'abord, le point sur l'information avec Adrien Spiteri. On reprend le débat.
La situation de plus en plus tendue au Sénégal. Dans le pays, les manifestations se poursuivent après le report de plusieurs mois de la présidentielle. Une deuxième personne a perdu la vie dans des heurts. Il s'agit d'un homme de 23 ans. Il a été touché par balle à Dakar. L'hommage national à Robert Badinter aura lieu mercredi. Il se tiendra à midi place Vendôme à Paris, où se trouve le ministère de la Justice. Un recueil de condoléances est à la disposition du public jusqu'à demain soir à la chancellerie. Connu pour son combat contre la peine de mort, l'ancien avocat et ministre de la Justice s'est éteint à l'âge de 95 ans. Et puis à Villeurbanne, près de Lyon, plusieurs policiers ont été blessés après un refus d'obtempérer. Il a eu lieu vers 2h30 du matin. Deux voitures des forces de l'ordre ont été percutées. Une troisième voiture de police a, elle, touché le véhicule des suspects. Deux personnes ont été interpellées. Huit policiers.
Merci Adrien pour le point sur l'information. On est toujours avec Mathieu Bock-Côté et Arthur de Vatrigan. Merci à Noémie Alioua d'être avec nous. Vous avez écrit « La terreur jusque sous les draps ». Mathieu Bock-Côté, pourquoi avoir invité Noémie Alioua ce samedi soir?
Alors je crois que c'est le premier livre, « La terreur jusque sous les draps », qui fait une critique méthodique, conceptuelle, fine, de l'espèce de révolution des dernières années qui cherche à diaboliser de mille manières l'amour tout simplement, la passion, le désir, et ainsi de suite. Donc tout cet univers qui nous était naturel et qu'on présente désormais sous le signe de l'aliénation, Noémie Alioua en fait une très très belle critique, tout en faisant par ailleurs, c'est souvent la part manquante dans les essais, non seulement la critique de ce qui ne va pas, mais l'éloge de ce qui devrait. Donc un éloge de l'amour. Donc pour en parler, nous la recevons, Noémie Alioua, bonjour.
Bonjour.
Bonsoir plutôt.
Bonsoir.
Alors, cette semaine, vous avez vu passer très certainement ce sondage sur le fait qu'une forme de récession sexuelle, c'est la formule utilisée chez les Français, plus particulièrement chez la jeune génération. Donc quand on dit, vous nous dites l'amour est attaqué, l'amour est déconstruit, est-ce qu'on peut dire que c'est un symptôme de cette crise de l'amour que le fait que finalement les êtres peinent désormais à se rapprocher dans l'intime?
Oui, tout à fait, ça vient confirmer finalement les théories et les thèses que j'apporte et que je développe dans ce livre. Cette récession sexuelle, elle dit quelque chose de la dissolution du rapport amoureux, de la séparation des êtres, et il faut mettre ces éléments avec d'autres. Il y a la récession sexuelle, mais il y a aussi l'explosion de la solitude, du célibat qui a doublé en 40 ans. Il y a aussi l'explosion de la pornographie, l'explosion aussi des ventes de sextoys. Il faut mettre tous ces éléments les uns à côté des autres pour comprendre ce qu'ils disent et pour comprendre que d'une certaine façon, l'amour est en train de disparaître de nos vies. Même si on le voit partout, parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez acheter un paquet de chips, on va vous parler d'amour, regardez dans la vie des gens et il disparaît dans la vie des gens. Et ces éléments-là, très concrets, très objectifs, ils permettent de le vérifier, cette possible fin de l'amour.
Alors, votre livre est une critique en bonne partie des idéologies qui font aujourd'hui le procès de l'amour. Et notamment, j'ai à l'esprit le livre de Mona Chollet, « Réinventer l'amour », c'est bien le titre si je ne me trompe pas, qui fait le procès de l'amour hétérosexuel, dit-elle, parce qu'il s'agit d'une structure de domination aliénante pour la femme, où l'homme serait le pervers tyrannique, serait l'enfant naturel du couple hétérosexuel patriarcal dans leur esprit, et la femme qui se ferme la gueule, ce serait la seule manière de survivre dans le couple hétérosexuel. Alors, j'ai une question toute simple, je vous lisais et je me demandais, que répondez-vous directement à Mona Chollet?
L'amour n'est pas un objet sociologique. Il faut remettre l'amour dans son contexte, qui est toujours une question de singularité, d'individus. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on veut en faire, si vous voulez, une sorte d'objet de science humaine. Or, il me semble qu'on se trompe à partir du moment où on commence à l'analyser de cette façon. Effectivement, Mona Chollet est une personne extrêmement importante. C'est une intellectuelle qui a travaillé sur ces questions et qui est extrêmement écoutée. Ses livres se vendent à plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'exemplaires. Donc, il faut la prendre au sérieux. Et moi, j'ai lu ses livres. Effectivement, ce livre sur l'amour est extrêmement intéressant parce qu'il vous explique que l'amour hétérosexuel, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, l'amour entre l'homme et la femme, c'est toujours une histoire de domination, de l'homme qui domine la femme. L'homme est toujours un bourreau, la femme est toujours une victime, et dans ce contexte-là, il faudrait réinventer l'amour. Évidemment, ce terme a été emprunté à Rimbaud, mais lorsque dans ces livres-là, on parle de réinventer l'amour, à mon sens, on parle de le tuer. C'est la raison pour laquelle, lorsque je parle de mon livre, je dis qu'il faut sauver l'amour, et mon livre veut sauver l'amour, et donc essayer de l'extirper de ces idéologies-là, qui veulent en faire des systèmes d'oppression, des systèmes de domination de la femme, qui ne voient pas la singularité des histoires, qui n'expliquent pas, par exemple, que les hommes aussi souffrent beaucoup en amour. On a tendance à l'oublier, on n'en parle jamais. Mais ça, c'est important à dire. Et puis nous, les femmes aussi, pouvons être des monstres. Vous voyez, ce sont des choses qui comptent et qui ne sont jamais rapportées dans ces discours sur l'amour. Alors, je comprends que l'amour soit un sujet, si vous voulez, un peu ringard, souvent, on a envie de rigoler de ce genre de sujet, mais il faut prendre au sérieux aujourd'hui les intellectuelles féministes qui parlent de l'amour, parce qu'elles sont en train aussi d'embrigader les cerveaux des jeunes générations.
C'est très important ce que vous dites ici. On reviendra ensuite sur votre manière de décrypter les différentes morales dont vous nous parlez. Vous dites que les jeunes générations, finalement, adhèrent à ces discours. Donc, lorsque Mona Chollet ou d'autres, donc ces intellectuels néo-féministes qui font le procès, en fait, de la possibilité d'un rapport entre un homme et une femme, c'est un discours qui n'est pas marginal. C'est un discours qui mord sur les nouvelles générations, qui est relayé, par exemple, sur les réseaux sociaux et tout ça.
Qui est relayé sur les réseaux sociaux. Encore une fois, il faut voir les ventes de ses livres qui sont très impressionnants. Il faut voir qu'il allait être invité dans les plus grandes émissions aujourd'hui, que son discours compte, qu'effectivement, quand vous allez sur TikTok, eh bien, vous avez beaucoup de jeunes féministes qui présentent son livre comme l'abécédaire de l'amour aujourd'hui. Une façon de comprendre ce rapport qui est compliqué, de le simplifier finalement, puisque tout est facile. Si l'homme est toujours le bourreau et la femme la victime, bon, bah, quelque part, il faut véritablement s'en délivrer pour être tout à fait émancipé, pour être tout à fait libre. Et donc, ces discours qui sont simplistes, qui veulent absolument politiser l'intime, c'est un grand danger et il faut les attaquer. Et c'est ce que j'essaie de faire dans mon livre.
Alors, vous avez le terme important, politiser l'intime. Vous dites qu'il y a trois grandes modalités aujourd'hui de ce procès de l'amour, la politisation de l'intime, la pathologisation du sentiment et la culpabilisation du masculin.
Oui, tout à fait. Si vous voulez, la politisation de l'intime, c'est l'idée d'abolir la séparation entre le privé et le public. C'est l'idée que tout est public, on va aller regarder jusque sous vos draps si l'égalitarisme fonctionne. Et vous avez aujourd'hui des enquêtes qui vous expliquent, par exemple, que pendant l'acte, si l'homme est sur la femme, c'est une domination. Donc, il faut absolument changer ça. Et vous avez, c'est un exemple parmi tant d'autres, si vous voulez, tout devient politique. On va chercher l'égalitarisme fou jusque sous nos draps, d'où le titre de mon livre. Et on va arriver à un système, si vous voulez, qui est tellement terrorisant qu'on va se dire, mais attendez, je veux sortir de ça. Il vaut mieux abandonner l'amour, si vous voulez. Et donc, c'est une culpabilisation de l'amour dont il faut s'extirper.
Pathologisation du sentiment ensuite.
Oui, bah écoutez, là il y a un exemple extrêmement précis dont vous avez sans doute entendu parler, l'emprise. Alors moi ça me fascine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les passions amoureuses sont pathologisées, criminalisées, psychiatrisées. L'emprise aujourd'hui, c'est véritablement l'alpha et l'oméga de la passion amoureuse. Lorsque vous ouvrez un journal, on vous dit que c'est une question d'emprise. Or, je veux dire, comment est-ce qu'on définit l'emprise aujourd'hui ? On vous explique que c'est une question, il y a toujours une question de dépendance, d'asymétrie, du fait d'être dans l'admiration de l'autre. Mais qu'est-ce que l'amour, si ce n'est ça ? Stendhal, dans son essai sur l'amour, dans De l'amour, il explique le phénomène de cristallisation, c'est l'idée d'admirer l'autre. Donc il y a toujours de l'emprise dans la passion amoureuse. Alors il ne s'agit pas de dire que toutes les emprises sont normales. Il s'agit de dire qu'il y a sans doute des emprises ou des situations dans lesquelles l'emprise est dangereuse, mais qu'il y a aussi des emprises, des situations dans lesquelles l'emprise est saine et qu'il faut la défendre. Il faut défendre une forme d'emprise aujourd'hui. Même si ce discours est totalement scandaleux pour certaines néo-féministes, je pense qu'il faut quand même pouvoir le dire.
Et je laisse Arsène Vatrigan, mon collègue masculin, vous poser la question sur la culpabilisation de l'homme.
Mais sur la culpabilisation de l'homme, j'aurais revenir aussi sur la définition d'entreprise, parce qu'en fait, vous avez commencé à esquisser finalement ce que c'est que la définition de l'amour. Donc vous avez brillamment vous déconstruisez le discours de la déconstruction de l'amour hétérosexuel de Mona Chollet et d'autres. Mais alors, c'est quoi l'amour ? Vous avez commencé à esquisser avec l'emprise, mais quelle définition pourrait-on donner de l'amour ?
Écoutez, moi, j'ai aucun problème à dire que je suis romantique. Je sais que c'est un peu ringard, c'est un peu ridicule. Mais moi, je définis l'amour comme Dante dans la Divine Comédie. L'amour est ce qui meut le soleil et les autres étoiles. L'amour, c'est une aspiration primaire, c'est ce qui meut le vivant. C'est un souffle, c'est un mouvement. Ça traverse absolument tout ce qui vit. Et donc, on ne peut pas s'en défaire. C'est pour ça que ces discours sont voués à l'échec. Si vous voulez, ces discours qui appellent à la fin de l'amour, qui appellent à la fin de ce sentiment-là qui est dangereux, bien sûr, eh bien, il me semble que de toute façon, ils auront tort.
Mon ami de Patrick Grand s'est esquivé de ma question, donc je la poserai moi-même. Vous parlez dans le livre de la culpabilisation du masculin. Et ça, je crois que c'est un élément central donc, de votre propos, mais plus encore dans la société aujourd'hui. L'homme est porté une forme de marque maudite, d'une certaine manière, dont il faudrait que la femme se décolonise de l'homme, en quelque sorte. Donc, qu'appelez-vous la culpabilisation du masculin?
Oui, et alors, c'est très intéressant parce que les femmes qui aiment les hommes, elles aussi, hein, elles se retrouvent dans le même bateau, si vous voulez. Et lorsque vous aimez un homme en tant que femme, pour les staliniennes à jupons, eh bien, vous êtes dans la collaboration parce que vous collaborez avec l'ennemi. Donc, vous aussi, vous vous retrouvez souvent dans le camp des méchants, des grands méchants. J'essaie d'esquisser aussi un concept qui s'appelle le réductio ad porsum, c'est-à-dire, je reprends le concept qui a été créé par le philosophe allemand Léo Strauss dans les années 60, qui est le réductio ad Hitlerum. C'est un procédé rhétorique qui consiste à disqualifier son adversaire en l'associant à Hitler. On n'argumente pas, vous vous êtes associé à Hitler. Bon, aujourd'hui, dès qu'on parle des hommes, on les associe aux porcs. Les porcs, c'est les agresseurs sexuels dans la nouvelle Vulgate, puisqu'il y a eu Balance ton porc, qui était le grand mouvement de libération de la parole des femmes, dont on connaît les dérives. Parce qu'évidemment, moi, je me considère comme féministe, je défends les femmes, je considère qu'il y a des porcs, tout ça, c'est assez évident pour moi. Mais je dénonce les dérives de ces mouvements qui s'en prennent aussi bien aux hommes qu'aux femmes et qui considèrent que tous les hommes sont à mettre dans le même bateau, que tous les hommes sont des potentiels agresseurs. C'est faux. Il y a aussi des hommes qui aiment et encore heureux que la vie ne se résume pas et la situation et les relations entre les sexes ne se résument pas à des rapports de pouvoir, à des rapports d'oppression, à des rapports de violence, à des rapports de domination. Il y a aussi des belles choses qu'il faut défendre.
Alors, vous avez utilisé le mot dérive. Donc, quand on pense au mouvement des dernières années, MeToo notamment, mais pas seulement, donc vous nous dites, si je comprends bien, vous me corrigerez si je comprends mal, MeToo est un mouvement qui avait une part légitime, mais MeToo a connu des dérives. Si j'ai bien compris, si j'ai pas bien compris, vous me le dites, mais quelle part distinguez-vous entre le légitime et la dérive dans tout cela?
Vous savez, c'est toujours l'histoire de la révolution et de la terreur. C'est-à-dire qu'à mon sens, la révolution est nécessaire. Il s'agit de se délivrer parfois de certaines oppressions. Le problème, c'est la terreur. C'est-à-dire, ce sont les excès, ce sont les effets pervers. Dans ce mouvement MeToo, le fait qu'il y ait des femmes qui aient pu aller porter plainte, dire qu'elles avaient souffert, qu'elles ne s'étaient pas senties suffisamment soutenues pour l'affirmer, eh bien, que ces femmes aujourd'hui soient soutenues et qu'elles se sentent sécurisées pour le dire, eh bien, c'est une bonne chose. Le problème, c'est de réduire tous les hommes à des porcs et de faire du réduction ad porsum. Vous voyez, c'est ça le danger.
Alors, on a une forme de révolution, dont vous parlez, qui traverse un peu le monde occidental, et pourtant, on pourrait dire l'aspiration à l'amour habite le cœur humain. Donc, on le diabolise, on cherche à séparer les êtres, on cherche à maudire le sentiment amoureux, et pourtant, les êtres se rapprochent les uns des autres. Est-ce que vous sentez cette forme de résistance des cœurs devant l'idéologie qui voudrait à tout prix les délier?
C'est compliqué, hein, parce que je vous ai dit, il y a des éléments extrêmement tangibles qui montrent qu'on va vers une société de plus en plus séparatiste, avec un phénomène d'anomisation qui se développe, avec véritablement le système de pantouflard, le sacre des pantoufles, comme l'appelle le philosophe Pascal Bruckner, qui se développe avec des êtres qui sont de plus en plus seuls, une solitude extrême. Donc, l'amour, évidemment, finit toujours par revenir sur le devant de la scène et dans la vie des gens, pour une raison simple. C'est comme je l'ai dit, l'amour est ce qui meut le soleil et les autres étoiles. C'est-à-dire que tant qu'on vit, tant qu'on respire, on aime. Et tous ceux qui vous disent « j'ai renoncé à l'amour », ce sont les mêmes qui pourraient se boucher le nez et dire « je vais arrêter de respirer, ça va marcher une minute, deux minutes ». Et puis finalement, ils vont finir par se remettre à respirer parce qu'en fait, ils ne peuvent pas vivre sans oxygène, et ils ne peuvent pas vivre sans amour. Donc tous ces discours-là, évidemment, vont de toute façon finir par retomber. Mais il faut les contrecarrer, il faut montrer comment est-ce qu'ils travaillent et comment ils travaillent à séparer les êtres.
Arsène Latrigan.
Comme Mathieu m'a perfidement accusé de me dérober, j'ai relancé la question sur la masculinité. Est-ce que finalement, dans tout cela, ce n'est pas le désir masculin qui est suspect et donc il faut condamner, voire éliminer?
Oui, c'est le désir masculin et c'est l'homme dans sa globalité. C'est-à-dire que l'homme est réduit à un porc et l'homme est criminalisé. On va vous expliquer, Caroline Dehaas, cofondatrice de Doser le féminisme, elle vous explique qu'un homme sur deux ou trois est un agresseur. C'est une phrase qu'elle a tenue. Donc, véritablement, il y a une condamnation de l'homme, une condamnation aussi, bien sûr, du désir qui est toujours criminalisé.
Alors comment, sans désir, continuer à aimer ou... Je ne comprends pas leur logique là-dessus.
C'est pour ça qu'à mon sens, c'est une condamnation de l'amour. Et c'est pour ça que j'appelle à sauver l'amour, si vous voulez. Parce que, évidemment, que lorsqu'on vous dit on va réinventer l'amour, on va délivrer l'amour du désir, on va faire différemment, c'est faux. Parce qu'il y a toujours quelque chose de rétif. L'amour est anarchiste, justement, par définition. Il ne peut pas se contrecarrer et rentrer dans des lois.
Alors, qui dit histoire d'amour dit quelquefois les contes. Les très beaux contes. Et là, on peut penser à La Belle au bois dormant, par exemple, ou tant d'autres. Et vous nous dites, finalement, ces contes qui se présentaient à nous, le niveau, les néo-staliniens à la jupon, les néo-féministes, nous présentent ça finalement comme des histoires tout autres. Vous avez quelques exemples à l'esprit?
Ça, écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'est elle. Hein, vous analysez leurs travaux, notamment. Alors, le grand conte qui est très attaqué, c'est l'histoire de La Belle au bois dormant. Parce que dans La Belle au bois dormant, la princesse Aurore, si vous vous souvenez bien, et notamment dans la version des frères Grimm, qui a ensuite été reprise par Disney, dans cette version-là, la princesse Aurore se fait réveiller par le prince Philippe par un baiser d'amour qui la délivre de son sortilège, qui la sort d'un sommeil de 100 ans. Et par ce baiser d'amour, elle se réveille. Donc aujourd'hui, on vous explique que comme il n'y a pas eu consentement, selon les Stalinais à Jupon, il n'y a pas eu de consentement, eh bien, c'est un porc. Le prince Philippe serait un porc, serait un agresseur sexuel. Or, excusez-moi, ce n'est pas du tout ça l'histoire de La Belle au bois dormant, c'est l'histoire, au contraire, de la résurrection par amour. Il faut arrêter de lire les contes comme des enfants qui ne comprennent pas la symbolique. Or, la symbolique, tout le monde la comprend. C'est l'idée que l'amour ressuscite. C'est l'idée que l'amour peut, si vous voulez, traverser toutes les frontières, qu'on peut même renaître, revivre par amour. C'est une histoire extrêmement intéressante, symbolique. Or, aujourd'hui, on vous explique que le prince Philippe est un porc, que c'est une histoire de culture du viol et qu'il faut s'en défaire.
Alors, lisant votre livre, j'y vois une défense de l'amour, évidemment, mais j'y vois aussi une défense de la littérature. Ça, vous avez fait, au tout début de notre entretien, vous avez dit l'amour n'est pas un pur objet sociologique. On a l'impression aujourd'hui que la littérature, qui est le domaine de l'exploration, de la nuance, du sentiment, des histoires, on se raconte jamais exactement la même histoire, l'autre dans la même histoire. Donc la part d'ambiguïté du monde qui peut être essentielle à l'amour, vous nous dites finalement la littérature est un meilleur chemin pour connaître le cœur humain que les enquêtes sociologiques qui s'empilent, qui s'additionnent au point de nous étouffer.
Évidemment, parce que la littérature permet la nuance, permet l'ambiguïté, permet la contradiction. On ressent, si vous voulez, dans les œuvres, beaucoup plus de vérité que dans les essais sociologiques qui paraissent sur l'amour et qui vous expliquent que c'est un système de domination à partir du moment où il y a de l'amour hétérosexuel. Si vous voulez, il y a beaucoup plus de vérité dans un vers de Rimbaud ou de Baudelaire que dans un essai de Mona Chollet.
Arthur de Vatrigan.
Mais n'est-ce pas quand même aussi un retour du bâton de la libération sexuelle et de 68, finalement, tout cela? Alors, comme dire retour de bâton de balancier, forcément, ça va à des excès, mais derrière, est-ce qu'il n'y aurait pas un espoir de rééquilibrage?
J'entends ça, j'entends cette critique qui est intéressante, mais vous savez, moi, je ne condamne pas la révolution sexuelle comme un bloc. Je pense qu'elle a permis aux femmes aussi de s'émanciper, d'être plus libres. Je suis contente que la contraception existe. Je suis contente qu'elles puissent avoir des relations sexuelles sans être tout de suite reniées de la respectabilité sociale. Je suis contente que les femmes soient plus libres de façon générale. Donc, cette révolution sexuelle, elle a aussi permis à la femme d'être plus libre, même si, effectivement, il y a eu des effets pervers, il y a eu des excès et tout ça est condamnable et compliqué. Mais si vous voulez, la liberté est toujours accompagnée d'un fardeau. Effectivement, aujourd'hui, c'est plus difficile aussi. Les relations sont plus difficiles, peut-être, parce qu'elles sont plus libres. Mais malgré tout, moi, personnellement, je fais le choix de la liberté, même si elle implique plus de difficultés et elle implique aussi un fardeau plus lourd.
Alors, qui aborde ces questions peut aussi les aborder en pensant à la faille atlantique. C'est-à-dire, on a l'impression que ces nouvelles morales viennent beaucoup quand même des États-Unis pour l'essentiel. Et souvent, on a l'impression que la France, c'est encore une fois, en fait, le pays qui défend l'ultime bastion à défendre, soit la liberté d'expression, la laïcité, mais aussi dans des circonstances, une certaine conception de l'amour. Regardez tous les films américains, on s'imagine les Français comme l'ultime peuple amoureux, plus encore que les Italiens. Est-ce que la France est la dernière chance de l'amour pour vous?
La France est le pays de l'amour, ça depuis toujours. La France est le pays du French kiss. La France est celle-même qui a résisté, entre guillemets, à MeToo. Je rappelle la tribune qui était parue dans Le Monde, qui a fait sur le coup le tour du monde, la liberté d'importuner. Et je me souviens...
Celle de Catherine Deneuve.
Tout à fait, j'avais lu des témoignages effectivement dans la presse américaine d'Américains qui nous disaient qu'il n'y avait que la France en fait pour oser publier une tribune pareille pour déjà commencer à dénoncer les dérives de MeToo. Donc évidemment c'est le pays de l'amour, c'est peut-être le pays dans lequel je peux écrire ce livre.
Alors vous dites défense de l'amour à la française, défense de l'amour en France, est-ce que vous sentez que la France est fidèle à ses traditions? Parce que j'ai l'impression que votre discours, je m'explique, il me semble correspondre au sentiment de beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Mais je le trouve assez absent dans l'espace public. Vous êtes plutôt rare dans votre catégorie dans l'espace public, alors que c'est le sentiment du commun immortel. Je me trompe peut-être, qu'en pensez-vous?
Vous savez très bien qu'il y a, il y a toujours une forme de doxa, d'idéologie majoritaire qui se développe dans certains médias traditionnels, mais qui ne représente pas forcément l'opinion du commun des mortels. Moi, j'ai l'impression justement de peut-être d'être minoritaire dans une élite intellectuelle, mais d'être assez majoritaire parmi les femmes. En tout cas, mon point de vue est celui que je défends dans ce livre.
Il nous reste une minute, tout simplement. Dans cette défense de l'amour aujourd'hui, vous croyez, si vous lancez un appel, appelons ça aux plus jeunes, qui sont cholétisés, vous leur lancez un appel en disant « décholétisez-vous ». De quelle manière? Quel est cet appel pour l'amour pour les jeunes générations?
Non, il faut appeler à un féminisme de réconciliation. Il faut appeler à une réconciliation relation des êtres, même si les hommes et les femmes sont différents fondamentalement, on le sait, même s'ils ont parfois du mal à se comprendre, l'amour mérite d'être défendu quoi qu'il arrive.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois. Merci à Noémie et Elvia d'avoir été avec nous ce soir. On est à quoi? J'ai moins 4 avant la Saint-Valentin.
Ah oui, bien sûr.
Vous avez tout prévu, Mathieu.
Ah oui, tout est organisé. Je suis le conspirateur de l'univers.
Oui, j'imagine bien. Allez, on se retrouve dans un instant, nous, pour l'heure des pros 2. À tout de suite sur CNews.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.